Une cité des arts dans la caserne d'Aï.
Rêve et réalité.
Quand est-ce que vous avez fait votre service ici ?
En 30.
En 30. Alors c'est fort différent maintenant.
Ah oui.
Légende panique.
Daïkiri.
Chapitre 30. Le projet Daï.
Le 6 juillet 1993, l'Assemblée Générale Extraordinaire de Radio Panique adopte à l'unanimité le projet Daï.
C'est quoi Daïkiri ?
Le projet Daï, c'est d'abord une convention signée fin du mois d'août avec la Société de Logement de la Région Bruxelloise, la SLRB, propriétaire de la caserne Daï, restée à l'abandon pendant une vingtaine d'années. Radio Panique peut occuper des locaux dans un bloc du bâtiment situé à front de la place d'Aï.
C'était les renseignements généraux où il y a des grillages.
Oui, il y a les grillages.
M'a-t-on dit.
Donc
tout devant.
Tout devant, dans le bloc principal à gauche.
Oui, oui.
C'était le GI, le service des informations. Donc le service secret, les espions, le chiffrement et tous ces trucs-là. C'était de ce côté-là. Mm-hmm. Tout cela travaillait en civil.
Ah oui.
Et vous l'avez connu aussi, ça, monsieur, non ?
Non. Moi, et on a vu dans la cave des espèces de cellules, il y avait parfois des prisonniers.
Mais... Ben non, c'était les cellules, c'était les cachots du cachot. Temps où, avant-guerre, enfin, parce que quand il y a... Avant-guerre, c'était une vraie caserne, il y avait des logements. Tout ça a été des logements avant-guerre.
C'est les cachots pour les soldats.
C'est les cachots, oui, qui se décombinaient.
Mais à l'origine, ce pavillon s'appelait pavillon des mariés.
Oui, c'était le pavillon des mariés. Il fallait un représentant officier, il fallait un représentant sous-officier et compagnie pour ce qu'on appelait la garde. Bien. Il y avait des gens qui étaient mariés. Et un officier avait la direction d'un service. Et il habitait dans la caserne, avec femme et enfant. Vous savez, autre temps, autre mœur. Faut pas oublier ça. Faut essayer de rester un peu logique dans sa démarche. Il y a eu un moment aussi où les instituteurs ou le directeur d'école logeait à domicile avec femme et enfants. Dans les bâtiments de l'école, c'était prévu comme ça. Mais là, nous nous trouvons dans la fin du siècle précédent. Et c'était, j'allais dire, plus convivial que maintenant.
Les avantages de ce déménagement, le troisième de l'histoire de Panique, sont évidents. Placer l'antenne sur le toit de la caserne élève sa hauteur d'environ 30 mètres.
Panique mirobolique.
Le local, lui, sera bien plus spacieux. 16 pièces au lieu de 3, 150 mètres carrés au lieu de 30.
Panique ! Mégalomanique !
Il n'y aura plus à proximité des habitants qui, après 22 heures, se plaignent du moindre bruit.
Panique supersonique.
Pas de loyer à payer.
Panique économique.
Installer Panique dans la caserne lui permettra de sortir d'un certain isolement, puisqu'elle abrite déjà plusieurs associations très différentes. Les espaces situés au-dessus du rez-de-chaussée et du premier étage pourront être occupés par de nouveaux groupes.
Panique atomique.
Les désavantages sont tout aussi évidents. Il y a la précarité de la convention, 6 mois de préavis si un nouveau propriétaire achète le bâtiment. Le coût de l'aménagement des lieux est à charge de Radio Panique. Une première estimation de ce coût indique que l'opération sera blanche après 3 ans, totalement rentable par la suite.
Panique amnésique.
Panigénique.
Philippe Lemoine, Monk's Dream, 1992.
passeport, même s'il est marmara, jusqu'au seuil de mes narines notoires. Oh, c'était du marbre belge. Et Boileau, c'est un écrivain, écrivait toute la nuit des histoires de délire infini. Lorsque le réverbère sont tendus, tant que peuvent l'être les souvenirs à venir, les vitrines, les miroirs déformant le type qui me regarde, ce n'est plus moi, mais l'autre, l'autre, c'est lui qui a pris ma place. Sorte de Mr. Hyde, dis donc, c'est pas pour ceci, petit. Ouais, mais lui répondait, je sais qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas, il faisait quand même une grimace et une grimace, une masse de fer. Noya au fil de ce récit, rasoir, rasoir, oh. Madame, depuis la première fois que je vous vis la tête sur les genoux de ma malocie, je suis épris de vous. Je ne mange plus, je pense à vous. Je ne dors plus, je rêve de vous. Si belle sous la lune blafarde étoilée, votre sourire n'a d'égal que les étoiles qui me filent sous le nez. Et... Madame, ma cuisinière est en panne et ma caisse s'est fait la malle. Consentez donc à m'épouser avant que je meure. Oui, je meurs. Mon cœur est en lambeaux, mais ses avilés, Loch Ness, son Jean-Louis, loufoque, mais si pour les paquebots dans la rue astrale s'égale.
Légende panique.
Daiquiri. Chapitre 31. Le gouvernement décide de réhabiliter la caserne d'Aï.
Fin 1993, le gouvernement bruxellois décide de donner le feu vert à la réhabilitation de la caserne. Tout sera démoli, hormis le bâtiment à front de la place d'Aï. Une consultation européenne sera organisée pour sa réhabilitation et sa réaffectation, dans la perspective d'une opération à coût public nul. Le gouvernement affecte en outre un montant de 25 millions à des mesures conservatoires. Il s'agit de nettoyer sommairement le bâtiment, de réparer les toitures, de colmater les corniches et gouttières, d'enlever la mérule présente dans une série de greniers et de remplacer ou clôturer les fenêtres. Ce travail sera effectué durant l'automne 1994. Tout profit pour les occupants du lieu.
Chic, panique, chic.
La décision du gouvernement renforce la précarité de l'installation de panique à Dailly. Pourtant, l'AG statutaire du 22 février 1994 reconfirme le oui au projet Dailly.
Ne le répétez pas, 8 ans plus tard, panique occupe toujours la caserne.
Dès l'été 1993, le ministre régional du logement ayant Dailly sous sa tutelle, Didier Gauzouin, oriente le sens de l'appel d'offres concernant le bâtiment avant.
Dans une interview qui est parue dans le soir en 1993, le 4 août 1993, vous avez lancé l'idée de l'installation d'une cité des arts dans la caserne Dailly. Pouvez-vous nous raconter comment vous était venue cette idée, comment cette idée a germé en vous?
Mais un constat. On essaie de faire de Bruxelles la capitale de l'Europe. On parle beaucoup de bureaucratie, on parle de l'Europe des affaires, on parle de l'Europe des lobbies, du business. Et je me suis dit qu'il n'y a pas de capitale de l'Europe sans une âme culturelle. Et si l'on veut mettre en évidence la culture ou les cultures européennes, l'occasion était peut-être donnée à Bruxelles de créer un lieu qui accueillerait des artistes venant de tous les coins de l'Union européenne. Et c'est à partir de là qu'est née l'idée de la Cité des Arts, c'est-à-dire un lieu qui accueillerait de manière permanente des artistes émanant des 15 pays de l'Union européenne, des artistes qui pourraient travailler pendant toute une année, qui pourraient exposer dans le confort et avec la certitude de voir leur travail répercuté. Très objectivement, j'ai analysé le pour et le contre et je me suis rendu à l'idée que ce serait rendre un mauvais service à ce bâtiment que de le modifier de fond en comble pour y faire soit du logement, soit du bureau. Et qu'il valait mieux garder l'espace tel qu'il existait, avec des grandes hauteurs de plafond, des escaliers majestueux, et de l'affecter à une fonction nouvelle et très noble.
Le propos du ministre renforce mon désir de voir Panic devenir une radio de création. Mais une fois que vous avez lancé l'idée, donc, durant l'année 1993, vous avez eu des échos.
Oui, j'ai eu des échos, mais pas dans le monde politique. J'ai eu des échos dans le monde associatif, dans le monde culturel, dans le monde immobilier aussi, qui n'a pas craché sur cette idée. Et donc, c'est vraiment des gens de terrain qui est revenu la meilleure résonance.
Un processus de rencontre est enclenché, qui aboutira l'année suivante à la création de l'ASBL, Cité Laboratoire des Arts.
Chapitre 32. Tirer le diable par la queue.
Je veux aider Radio Panique. Parce que Radio Panique est une des rares fréquences où la liberté d'expression et de création est possible. Parce que je n'ai pas abandonné sans raison le programme musical des autres radios. Parce que Radio Panique, station indépendante des pouvoirs politiques et financiers, en a terriblement besoin.
Je veux aider Radio Panique. Je veux aider Radio Panique.
Alors, je vais à ma banque et je fais un ordre permanent d'un versement mensuel de 100 francs à Radio Panique. 100 francs par mois. Radio Panique, rue Thomas Vinsotte, numéro 29 1030 Bruxelles. Numéro de compte 001-16-28-875-30. 001-16-28-875-30.
Que l'art mange.
Durant l'automne et l'hiver 1993-94, le permanent consacre tout son temps à chercher de l'argent pour financer la rénovation du nouveau local. Un emprunt bancaire est refusé, les multiples demandes de subsides aux différents niveaux de pouvoir échouent, aucune famille politique ne soutient l'entreprise. Parmi les institutions privées, seul Vivre Ensemble nous accorde un subside de 2 500 euros.
Vivre Ensemble est une organisation chargée de répartir vers les projets concernant les plus défavorisés les sommes récoltées chez les fidèles catholiques durant la période qui précède la fête de Noël.
Et c'est ainsi que je suis amené à prononcer un prêche sur Radio Panique lors d'une messe dans une église de Schaerbeek.
Panique angélique.
Des appels d'offres de publicité de sponsoring sont adressés à une centaine d'entreprises multinationales ou bruxelloises. On les inonde de rappels téléphoniques, mais en vain.
J'organise une nouvelle souscription chez Nos Amis, la troisième depuis la naissance de Panique.
Elle rapporte quelque 3 750 euros.
Me disant que je m'y prends mal, je fais appel à un expert qui invente la formule d'une sorte de bon d'investissement.
À nouveau, des centaines d'envois, plus particulièrement ciblés sur les professions libérales. C'est un nouvel échec.
On renvoie l'expert à ses études lorsqu'il ose nous adresser le montant de ses honoraires.
Le permanent rédige un dossier pour pouvoir bénéficier de l'épargne cigale. On demande à tous les animateurs de la radio de faire connaître autour d'eux cette possibilité d'aider une association sans dépenser un seul franc. Peine perdue, personne ne s'investit dans une campagne qui ne rapporte que quelques 100 euros.
Je rage. L'effort consenti ne correspond pas du tout au résultat. Et surtout, je me sens bien seul quand il s'agit de trouver de l'argent. Je me dis qu'on ne m'y prendra plus.
À l'époque, Panique est incapable d'organiser des fêtes ou des soirées d'une certaine ampleur.
Puisqu'il ne faut compter que sur soi-même, je lance une table d'hôtes mensuelle.
En 2 ans, la table d'hôtes rapporte quelque 3 750 euros.
Et que personne ne l'oublie.
Panique gastronomie.